Électrochoc, le podcast des électrons libres.
La construction du pont du Gard, un travail de Romain. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des grandes infrastructures qui façonnent les civilisations, en prenant comme point de départ ce chef-d'œuvre antique.
Bonjour Max, bonjour à tous. C'est un sujet fascinant. Quand on pense au pont du Gard, on imagine tout de suite la prouesse technique. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que ce n'était même pas une nécessité vitale pour la ville de Nîmes à l'époque.
Exactement, c'est le premier point clé. Au 1er siècle, Nîmes avait déjà de l'eau, grâce à la source de la fontaine et à de nombreux puits. L'aqueduc n'était pas une question de survie, c'était une déclaration, un symbole de statut.
Un symbole, oui. En construisant cet aqueduc, Nîmes ne cherchait pas seulement à étancher sa soif, mais à rejoindre ce qu'on pourrait appeler la civilisation des eaux. C'était une façon d'afficher son appartenance au monde romain, avec tout ce que cela impliquait, des fontaines publiques, des thermes pour la vie sociale et une hygiène impeccable grâce au nettoyage des égouts.
L'eau n'était plus seulement une ressource, elle devenait un élément du confort urbain, un marqueur de grandeur. C'est une idée très moderne, finalement. Les infrastructures ne sont pas que fonctionnelles, elles sont aussi politiques et culturelles.
Et quel chantier pourrait parvenir ? On parle d'un projet pharaonique. 50 km de tracé, des tunnels, des tranchées et bien sûr ce pont monumental pour franchir le Gardon.
On a du mal à imaginer l'échelle. Plus de 11 millions de pierres taillées, 25 000 tonnes de chaux. Et ce n'était pas, comme on le croit parfois, une armée d'esclaves qui a fait ça.
Non, c'est une autre idée aussi intéressante. C'était des entreprises spécialisées, des artisans qualifiés, maçons, tailleurs de pierre, charpentiers et même des grutiers. Ils utilisaient des engins de levage incroyables, comme ces fameuses cages d'écureuil, des treuils actionnées par un homme marchant dans une immense roue en bois.
Un peu comme un hamster géant construisant un monument. Et tout ça pour une durée de chantier d'environ 5 ans pour le pont lui-même. C'est d'une efficacité redoutable. Le résultat, c'était un débit d'eau colossal pour l'époque, entre 30 000 et 40 000 mètres cubes par jour.
Ce qui nous amène à une question cruciale. Comment ont-ils financé un projet aussi démesuré ?
C'est là qu'on voit toute l'intelligence de l'organisation romane. Le financement était composite. Il y avait une part de subvention de l'Empire, bien sûr, mais l'essentiel venait des ressources locales.
C'est-à-dire des impôts, des emprunts contractés par la ville, mais surtout des dons. C'est l'ancêtre du crowdfunding en quelque sorte. Les notables, les familles les plus riches de la cité, finançaient les travaux sur leurs propres deniers.
C'est ce qu'on appelle l'évergétisme. En échange, ils gagnaient du prestige, des honneurs, une statue à leur nom. C'était un partenariat public-privé avant l'heure où l'argent des élites et l'autorité de la cité s'unissaient pour réaliser des projets qu'aucune des deux parties n'aurait pu financer seule.
Parlons maintenant du défi technique le plus fou, la pente. C'est presque inimaginable.
C'est le point qui me fascine le plus. Sur 50 km, il n'y a que 12 mètres de dénivelé. Ça représente une pente moyenne de 24 cm par kilomètre. C'est infime.
Et ils n'avaient ni laser, ni GPS, ni même le concept du zéro pour faciliter leurs calculs. Ils travaillaient avec des instruments comme le corobat, une sorte de grand niveau à eau, et leur précision dépendait entièrement de leur savoir-faire et de leur patience.
Leurs unités de mesure étaient aussi d'une complexité folle. Pour noter une distance comme 42,8 cm, ils devaient additionner des pieds, des palmes, des doigts et même des fractions de doigts. Un vrai casse-tête.
Et pourtant, ils y sont arrivés. Avec des imperfections, certes. On sait qu'au début, l'eau débordait à certains endroits. Mais leur pragmatisme était aussi impressionnant. Ils ont simplement rehaussé la conduite sur plusieurs kilomètres, y compris au sommet du pont. Ils ont corrigé et adapté.
C'est la preuve que l'innovation naît souvent des contraintes les plus fortes. Ils n'avaient pas nos outils, alors ils ont développé une ingéniosité et une rigueur exceptionnelles.
Une telle prouesse a forcément nourri l'imaginaire. On retrouve des symboles gravés dans la pierre, comme des phallus pour protéger l'ouvrage du mauvais sort. Et il y a même cette fameuse légende.
Ah oui, la légende raconte que le diable aurait construit le pont en une seule nuit, en échange de la première âme qui le traverserait. L'architecte, très malin, aurait fait passer un chat en premier, laissant le diable bredouille.
Ces histoires montrent bien à quel point, même pour les gens de l'époque, cette construction relevait de l'impossible, du surnaturel. La légende vient combler le fossé entre ce que l'on voit et ce que l'on peine à comprendre.
Finalement, 2000 ans plus tard, que nous dit le pont du Gard ? Il n'est plus un aqueduc, mais il reste un exemple incroyablement puissant.
Il nous montre montre qu'une civilisation se définit par ce qu'elle ose construire. Ces grands projets coûtent cher. Ils demandent du temps, des compromis, mais ils transforment la vie et dessinent l'avenir.
Le parallèle avec aujourd'hui est frappant. Les aqueducs étaient les autoroutes de l'eau. Nos autoroutes à nous sont les réseaux électriques, ferroviaires ou numériques. Ce sont les colonnes vertébrales de notre société.
Exactement. Le pont du Gard nous rappelle que le progrès n'est pas une abstraction. Il se construit, pierre après pierre, grâce à des sociétés qui font le choix audacieux d'investir dans leur avenir. C'est un message d'optimisme et de confiance qui traverse les siècles.
Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.